Musique traditionnelle, une émission qui donne la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission produite et animée par Mathilde Lacaze.
Auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Dans cette émission de musique traditionnelle un peu spéciale, je vais présenter le festival de Marcine, qui a lieu tous les deuxièmes week-ends de septembre en Belgique, à côté de Namur. On parlera donc de la 29e édition dans laquelle ces podcasts ont été tournés, mais aussi de la 30e, c'est-à-dire l'année 2023. Je vous présenterai des organisateurs, des artistes, des bénévoles, des gens qui sont là depuis le début, des gens qui y viennent depuis seulement quelques années. J'espère que cela vous donnera envie de danser et surtout envie d'y aller.
Sylvie Montagne.
À la limite, si je ne connais pas la programmation, je viens à Marcine.
Festivalière.
D'abord parce que c'est le plus joli des petits festivals pour moi, le D'accord. plus sympathique. Et puis c'est comme si les programmateurs de Marcine avaient préparé un repas
oui.
et qui m'invitaient à déguster les plats du repas. Et je leur fais confiance et je viens déguster les plats du repas.
Donc en fait, vous réservez vos dates et puis vous venez et puis après vous découvrez ce qu'il y a.
Alors je regarde un peu le programme, mais
même.
Par exemple, oui, je réserve le week-end de Marcine, ça c'est sûr. D'ailleurs j'ai l'impression que les vacances sont terminées, j'ai repris le travail, mais c'est à nouveau les vacances parce qu'il y a Marcine.
Parce que vous êtes prof des écoles.
Oui.
D'accord.
Et ensuite je regarde un peu le programme, mais hier en discutant avec des musiciens, je me suis aperçue que je ne me souvenais plus de ce qu'il y avait aujourd'hui, samedi. Et là, je me suis dit, mais en fait, je viens à Marcine pour découvrir ce qu'on va me proposer.
Et je crois que le public est d'accord, hein, puisque avec la foule d'applaudissements. Et vous avez fait depuis combien de temps vous faites des festivals?
Depuis 20 ans, une vingtaine d'années.
Oui. Et beaucoup.
Oui, beaucoup.
Différents.
Dans différents endroits, beaucoup de festivals et beaucoup de stages longs aussi pour apprendre à danser.
Et vous enseignez aujourd'hui la danse aussi?
Un petit peu,
À Lille?
Oui,
à Lille. Et du coup, avec tous ces festivals que vous avez faits, eh bien, vous venez à Marcine?
Ah oui, en étant à Lille. Et puis vraiment, c'est un petit festival sympathique où je retrouve beaucoup d'amis. Beaucoup de danseurs et de danseuses avec qui j'adore danser. Et puis c'est sympathique, il y a à manger, il y a à boire, il y a la danse, il y a la musique, il y a des concerts aussi, ce que j'apprécie. Des festivals où il y a des concerts aussi. On s'assoit et on écoute la musique.
Qu'est-ce que vous appelez un petit festival?
Un petit festival, c'est avec deux parquets. Ici il y a deux parquets et une salle de bal, une salle de concert. Voilà. Et puis il y a un grand lieu pour se restaurer, pour boire, pour rencontrer les gens, plein d'espaces extérieurs pour s'asseoir, pour rencontrer les gens. Voilà, ça c'est important.
Et Sylvie me dit ça avec les yeux qui pétillent.
Ah oui, d'accord, précédemment, t'as dit qu'on était concentrés, qu'on applaudissait pas tout de suite dans le jardin. Oh oui, j'aurais pas applaudi.
Ben, je suis Pierre Montagne, ça fait 30 ans que je, pour le compte de Musique et Tradition, on organise chaque année le Folk Festival de Marcine. Ouais, mon rôle personnel, c'est d'abord ce que j'ai commencé comme gros bénévole au niveau des infrastructures et au niveau du son, et puis de fil en aiguille avec les différentes équipes, ben, on a grossi le festival tout doucement et j'ai toujours gardé le rôle de coordination technique et de coordinateur. J'avais un ami avec lequel on a lancé le festival qui s'appelait Jean-Louis Lechel, qui lui s'occupait plus de l'administration et de la programmation. Donc du choix des groupes et du choix des spectacles. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben, les équipes ont évolué. Moi j'ai toujours continué, puis de nouvelles équipes sont arrivées. Et alors j'ai remis le flambeau tout doucement à l'équipe actuelle qui a repris toutes les fonctions que j'ai occupées depuis le début. D'abord, je dirais que d'abord sur la motivation. Un, c'est plaisir. Deuxièmement, c'est que ça s'est fait en deux étapes, parce que la première étape, ça s'est fait pendant 9 ans au moulin de Ferrières à Vallavoire, qui est à 1 km à vol d'oiseau de Marzines. Et dans un deuxième temps, quand le propriétaire de Marzines nous a proposé son site, mais le comité de l'époque a préféré venir à Marzines, d'où on a continué à développer le festival, mais plus sous l'identité de Marzines que sous l'identité de la voie Ferrière.
Et vous êtes danseur, vous êtes musicien ?
Non, moi je suis musicien et je donnais les cours de musique dans la petite école de musique dont l'ami en question avec qui on a lancé le festival était propriétaire à la voie. C'est de là que tout est parti au niveau des choses en 91.
Oui, parce que en 91, donc du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé cette idée de festival? Parce qu'il faut quand même beaucoup d'organisation, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'énergie quand même.
L'idée au départ était faite pour la petite boîte à musique, qui était une école privée de musique. Et on faisait une fête. Et on l'a faite la toute première fois dans la cour du Moulin de Ferrières, le deuxième week-end de septembre, parce que c'était le week-end du patrimoine. Donc, on avait su d'avoir des gens, c'était gratuit. Et alors, à la suite de la réussite de cette fête, le comité, un petit comité de parents s'était constitué au niveau de la boîte à musique. Et alors, on avait décidé de faire un festival un peu plus conséquent. Donc, la deuxième année, on a lancé le festival. Et comme c'était toujours gratuit, on avait besoin de moyens financiers pour pouvoir continuer. Et c'est comme ça qu'on a alors louer une prairie qui appartenait au moulin, mais là on louait la prairie et là c'était plus de patrimoine, donc on pouvait faire payer sur le côté du moulin et on a lancé sous chapiteau le festival. Et de là il s'est développé jusqu'en 2001 quand on est arrivé sur le site de Marzines où là on a eu l'infrastructure en dur et le fil en aiguille, on est quand même revenu au chapiteau, on est quand même revenu à 2 chapiteaux de danse. Et voilà, parce que le festival a commencé à s'étoffer et à grandir.
Alors, est-ce que ce festival, c'est votre vie? Est-ce que c'est quelque chose d'important? Parce que si vous y êtes toujours depuis 30 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient.
Ah ben, c'est motivant d'abord. Hein.
Oui.
C'est très motivant. Puis deuxièmement, je trouve que c'est une... Comment je dirais? C'est quelque chose qui palie. Il y a beaucoup de festivals rock, beaucoup de festivals métal, beaucoup de festivals toutes sortes très... Or, la musique traditionnelle, la danse traditionnelle, a toujours été un peu marginalisée. Et justement, ce festival, c'est le but de dire stop, il n'y a pas que les métalleux, il n'y a pas que les rockers, il n'y a pas que les bluesmen, il n'y a pas que les jazzmen, il y a aussi les gens de la musique traditionnelle, qui est bien plus ancienne que le jazz ou que le blues. Donc là, il faut. Et là, il est temps qu'on mette ça à faire l'honneur. Donc ça a toujours été, je ne dirais pas une croisade, mais ça a toujours été le plaisir de dire, si je continue ce festival, c'est d'abord pour cette identité-là. C'est de faire revenir à la surface, régulièrement, la véritable musique populaire ancienne, tout simplement.
Et c'est une réussite, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui viennent et qui connaissent ce festival, et de milieux très différents.
Oui, tout à fait, mais bon, faut savoir aussi que ça reste quand même un public de niche. Par rapport à l'ensemble des festivals que l'on connaît, en Wallonie, etc. J'en ai moi-même parlé avec le directeur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui était M. Larue, et qui me disait qu'en Wallonie, on était le seul festival à avoir cette identité. Voilà. Après, il y en a d'autres qui ont commencé tout doucement, mais sur la durée, on est les premiers pratiquement à avoir lancé le type de festival dit de musique traditionnelle.
Superbe, alors j'espère qu'il y a des gens qui vont s'inspirer, en tout cas, que ce soit en Wallonie ou ailleurs, c'est-à-dire remettre la musique traditionnelle au goût du jour, parce que c'est extrêmement important de se rappeler que la musique populaire et les danses populaires ont aussi leur place.
Ben, je crois que c'est la transmission de ce que nous sommes. Nous avons un passé qui fait le présent, comme on dit toujours, et le présent qui fait l'avenir, mais on a toujours évolué avec la musique ancienne, faites ce que vous voulez, quand on joue du baroque. Quand on joue de la Renaissance, c'est la musique ancienne. Ça parle que Louis XVI allait chercher dans les campagnes comment les gens dansaient pour ramener à la cour à Versailles. Les danses, ce sont du peuple, tout simplement. Donc, il n'y a pas de secret. C'est nos racines et je pense qu'il ne faut pas les oublier et je pense qu'il faut garder est perpétuée, même s'il y a une évolution au niveau des sonorités, au niveau de l'écriture, ou au niveau de l'écriture même, le texte, on garde le caractère traditionnel, le caractère de la musique modale, tout à fait transmissible, du bouche à oreille, comme on dit. Voilà.
En fait, pour ce festival de Mersin, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites, ce qu'il y a besoin de faire pour la trésorerie ?
Donc en trésorerie, on a tout le travail avant, c'est-à-dire tout ce qui est sponsor, tout ce qui est subside, etc. Et puis les trois jours du festival, on a la gestion des caisses principalement, caisses jetons pour les boissons et caisses entrées avec les préventes, et puis forcément, donc tout, on fait des stats et puis on fait un rapport d'activité à la fin des trois jours.
Alors, j'ai entendu parler de jetons pour le bar.
Oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce principe et pourquoi ?
Les jetons, c'est principalement pour éviter une manipulation d'argent au bar, parce que déjà, le fait de se concentrer pour avoir les commandes bar, c'est déjà pas mal. Et donc, les jetons, le jeton vaut ça a une valeur argent. Et donc, pour un verre de vin, il faut 3 jetons. Pour une bière spéciale, il faut 3 jetons. Et donc, tout est centralisé au niveau de la monnaie. Il n'y a pas de manipulation. Et pour les gens du bar, c'est beaucoup plus facile que de calculer, en plus, de faire leurs commandes.
En plus, ce sont des bénévoles, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils s'occupent que du bar.
Oui, ce sont tous des bénévoles, même dans l'organisation, on est tous bénévoles, l'ASBL n'a pas de salaire ou n'engage pas une personne, c'est vraiment que des bénévoles.
Qu'est-ce que c'est que l'ASBL ?
L'ASBL, c'est une association sans but lucratif, donc ça c'est par rapport à la législation belge.
Merci, et combien de temps vous préparez à l'avance pour un tel festival ?
C'est 1 an, hein. Donc ici, on va terminer le festival ce soir, et puis on va clôturer le festival jusqu'à peu près mi-octobre. Et en novembre, on recommence pour le festival de l'année suivante. Il faut compter une année de préparatifs, parce que justement, il y a les sponsors, il faut trouver des gens pour monter, démonter, il y a toute une infrastructure, il y a tout un côté administratif à mettre en place avec les communes, avec les voiries, etc., parce que le public envahit un petit peu nos voisins, quoi.
Vous, ça fait combien de temps que vous êtes sur Mersin ?
Alors, moi, j'ai commencé le premier, en fait. Je suis dans les fondateurs du festival. On était 4. Il y avait Monsieur Lejeune, son épouse, mon compagnon et moi, lors d'un barbecue, vraiment tout à fait sympa. En Belgique, on a les Journées du patrimoine le 2e week-end de septembre. Et on s'est dit, pourquoi pas faire, au moment des Journées du patrimoine, une festivité avec des groupes irlandais, écossais, français,
wallons
bien sûr, belges bien sûr, hein, donc wallons, flamands, des cantons rédimés, etc. quoi. Mais on a jusque eu des Québécois, des Suédois, des Norvégiens. Enfin, on est vraiment dans tout le monde. Parce qu'on a eu aussi de la musique une année qui était plus Maroc. Donc, voilà.
Ah, c'est génial. Donc, autour d'un barbecue, ouais, c'est né un festival aujourd'hui, en 2022. Aujourd'hui, c'est la 29e édition. Oui. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour la 30e?
Oui. Bien sûr, on a prévu quelque chose pour la 30e, mais on va pas tout dire, hein. Mais oui, non, ça sera une grosse fête, oui.
Il y aura toujours de la bière.
Ah oui. Et de la Léopold 7 qui est fabriquée sur le site de Marzine et qui est, voilà. Donc,
J'en profite tant que je vous tiens parce que j'ai entendu parler beaucoup de cette Léopold 7. Elle est fabriquée ici. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?
Je suis pas terriblement amatrice de boissons alcoolisées, donc voilà. Mais oui, donc c'est un brassin. Il y a la blonde, l'ambrée, et maintenant ils ont sorti la triple, je pense. Et donc la brasserie est sur le site de Marzine, et c'est le propriétaire avec un de ses amis qui a lancé ça. Maintenant, il y a, je pense, j'ai envie de dire une petite dizaine d'années, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être moins.
D'accord. En tout cas, pour avoir interrogé plusieurs personnes, elle est très, très appréciée.
Oui, effectivement. D'ailleurs, ils ont remporté plusieurs concours belges et européens.
Est-ce que vous croyez que ça attire du monde, du coup, à Marzine, la Léopold 7?
Les amateurs, oui, sûrement. non, je pense que c'est principalement le cadre et l'ambiance qui fait que le public est présent. On a eu 2 années de Covid, malheureusement, où on n'a rien pu organiser. Et vendredi, c'était la joie de retrouver tous ces visages souriants, heureux de revenir, heureux de danser et de partager.
Alors, vous m'avez parlé de beaucoup d'organisations en amont et de trouver des bénévoles, etc. Vu que ça fait la 29e édition, est-ce que ça, c'est assez facile? Est-ce que ça roule?
Oui, ça roule, mais seulement on essaie toujours d'améliorer le système. Et maintenant, tout ce qui est bénévolat est informatisé. Et les premiers vieillissent, évidemment, comme moi. Et donc, on a de nouveau des jeunes, on a de la relève, mais il faut aussi les écoler, quoi. Mais sinon, oui, ça roule, bien sûr. Oui. Ce serait dommage. Mais ça reste quand même un poste important pour... Parce que sans bénévoles, on n'a pas de festival, hein, ça, il faut pas rêver. Parce qu'il y a, par exemple, au niveau des bénévoles, vous avez une semaine de montage avant et une semaine de démontage après, pour ne fût-ce que les stands, les sonos, tout ce qui est aux alentours, les chapiteaux, etc.
Et un an de préparation avant pour tout ce qui est programmation et trésorerie.
Oui, ça c'est donc on a Aurélie Gier avec une équipe, avec Sophie Cavé et d'autres, qui elles sont spécialistes, qui sont musiciennes et qui font la programmation maintenant depuis 4-5 ans. Donc oui, s'il faut prospecter. Ouais. Ça a été une partie, j'ai fait ça pendant 5 ans, mais avec la trésorerie c'était trop.
D'accord.
Parce qu'ici, on avait déjà un en main droite.
Mais en fait, il passe en main gauche et sur les deux mains droites, c'est des paires.
Ah oui, d'accord. Okay.
Voilà.
Et alors, au niveau...
Jean-François Tinson.
Deux DPA. Alors oui et non, on n'a plus assez.
Ouais, c'est ça. On en a 30.
Il y en reste un.
Antoine Morellon.
C'est un max, j'imagine.
C'est ça. On va mettre un DPA.
Sonorisateur.
Il restait un bêta 98, je crois.
Alors pourquoi c'est pas le même confort que dans une salle? C'est le chapiteau?
Oui, clairement le chapiteau. Mais dans une salle, on a déjà une acoustique qui a été travaillée en général au départ par des acousticiens. Donc la salle par elle-même sonne déjà bien. Alors qu'ici, dans un chapiteau, on se retrouve un peu dévêtu de tout. Il n'y a aucun pendrillonnage nulle part. La toile, ça fait passer les fréquences aiguës. Et dans le médium, ça réfléchit, ça résonne. C'est très agressif comme son. Et donc, oui, c'est une manière de travailler un peu inhabituel.
C'est un challenge, du coup?
Ouais, ça reste un petit challenge quand même, je trouve.
Ça fait 4 ans que je suis avec ma petite. Et je les suis sur toutes les dates, tous les festivals, toutes les différentes dates qu'on fait à l'année, ouais.
Alors, est-ce que vous avez l'habitude du confort des salles comme Jean-François, ou est-ce que vous êtes tout terrain?
Eh ben, j'ai l'habitude des deux, hein. On fait vraiment du one shot des fois dans des salles comme ici, chapiteau avec des fréquences qui partent un peu partout, et des fois accueillis dans des super salles, des super lieux qui sonnent d'enfer, où voilà, il n'y a plus rien à faire, on monte les faders et ça sonne tout seul, quoi.
Et alors justement, tous les deux, là, parce que je vous ai vu travailler à deux, comment est-ce que vous faites dans un... Vous, Antoine, qui connaissez le groupe, Jean-François, qui connaissait le lieu et les problèmes, comment est-ce que vous faites pour être à deux?
Ça commence déjà il y a un moment, on s'est eu au téléphone pour faire un petit point sur les micros, sur les besoins techniques. Et à partir de là, moi j'ai quelques demandes. Jean-François, il me propose des choses. Puis on voit, on se met d'accord et voilà.
Oui, pour moi, j'avoue que j'apprécie le coup de fil d'Antoine parce que c'est vrai qu'il y a la fiche technique, il y avait 2-3 petites adaptations qui avaient été faites depuis. Donc c'est vrai que ça évite un peu les imprévus parce que mine de rien, c'est quand même la course. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a 2 heures, mais finalement 2 heures, le temps que le dernier groupe on démonte, on installe. Vu qu'Antoine connaît bien le groupe, vu qu'on s'était entendu avant, finalement j'ai fait le plateau, donc j'ai placé les micros, etc. Il est venu checker si c'était OK, et c'est plus efficace de cette manière-là.
Sachant que c'est votre matériel, Jean-François, quand même.
Oui, majoritairement, oui.
Du coup, est-ce que c'est pas difficile, je me demande, moi, de laisser son matériel entre les mains de quelqu'un d'autre? C'est comme un instrument.
Non, c'est du matériel technique, et en général, ce sont toujours des gens compétents qui viennent. Non, aucun souci à ce niveau-là.
Moi, je connaissais pas du tout le festival. Alors voilà, on s'est retrouvé ici dans la programmation. Donc voilà, mais je le connaissais pas. C'est une belle découverte pour moi.
Mais ça fait quand même combien d'années que vous tournez avec des groupes de musique traditionnelle?
Voilà, ça fait 15 ans au moins, 17 ans, 15-17 ans.
Donc vous avez fait beaucoup de festivals.
Ouais, mais beaucoup en France, un petit peu en Italie, et jamais en Belgique. C'est la première fois que je vais en Belgique.
Ah. Voilà. Jean-François est super content. Hein. Ça se voit pas à l'antenne, mais merci à tous les deux.
Les marguerites est au fond des bois qui pleurent et qui soupirent. Mes marguerites est au fond des bois et qui pleurent et qui soupirent. Mon âme et qui pleurent et qui soupirent. À qui m'y passerai les bois, moi qui suis si petite, mais à qui m'y passerai.
Morceau de Ma Petite Brande Noirmoutier que se termine la première émission sur le festival de Marcines. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous en faire des retours. Vous pouvez appeler au 05 65 348 348 pour nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast. J'en profite pour remercier Armand Gall à la technique à Radio Présence Figeac, aux intervenants de ce podcast qui sont Pierre Montaigne, Françoise Guillemin, Célia Guérino, Sylvie Montagne, Jean-François Tinson et Antoine Morellon à la sonorisation, le groupe Ma Petite ainsi que Aurélie Gé pour son stage de danse suédoise en fond sonore. Merci beaucoup et à bientôt.
C'était Musique Traditionnelle, une émission qui a donné la parole aux acteurs du monde de la musique traditionnelle. Une émission qui a été produite et animée par Mathilde Lacaze.